Décryptage. Anne Corpet.
C'est un basculement historique. Pour la première fois depuis la partition de l'Irlande, il y a plus d'un siècle, les catholiques sont plus nombreux que les protestants dans la partie britannique de l'île. Ce renversement de la donne démographique survient quelques mois seulement après la victoire également historique du Sinn Féin, le principal parti nationaliste irlandais, aux législatives locales en Irlande du Nord. Pour les partisans de la réunification, le rêve d'une Irlande totalement libérée de la tutelle du Royaume-Uni devient possible, et samedi prochain, un grand rassemblement est organisé à Dublin pour discuter de l'avenir constitutionnel de l'île. Mais rien n'est acquis, seul Londres peut organiser le référendum qui permettrait aux 6 comtés d'Ulster de rejoindre la République d'Irlande. Irlande, la réunification est-elle inéluctable? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Décryptage. Et avec nous en studio, Fabrice Mourlon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à la Sorbonne Nouvelle. Merci d'être venu ici en studio. Et avant de commencer à discuter, je voulais vous faire écouter ceci.
Samedi prochain à Dublin, nous allons accueillir le plus grand rassemblement depuis des générations pour discuter le futur constitutionnel de cette île. Le débat sur l'avenir de l'île est en train de grandir. C'est une conversation qui concerne chacun d'entre nous. Quel que soit votre point de vue sur le futur de notre île, je vous encourage à venir et à participer au débat. En travaillant ensemble, nous pouvons réaliser pleinement notre potentiel et construire une meilleure Irlande pour tous. For everyone.
Alors on vient d'entendre John Finucane, c'est un élu du Sinn Féin à Belfast, et il participe donc à Dublin à ce grand meeting samedi prochain où on débattra de la réunification de l'île. Après les résultats du recensement, cet élu a déclaré un changement historique est en cours. C'est aussi votre avis? C'est ce que dit ce recensement?
Je pense que c'est ce qu'il voudrait. De toute façon, Sinn Féin a toujours voulu une réunification. L'augmentation dans le recensement du nombre de catholiques, on le sait quand même, puisque le recensement c'est tous les 10 ans, mais on savait déjà que le nombre de catholiques allait augmenter. Mais faut faire attention, en Irlande du Nord, faut pas toujours faire l'équation entre catholiques nationalistes, protestants, unionistes. C'est un peu plus compliqué que ça, et on l'a vu lors des dernières élections locales, puisque donc Sinn Féin est passé en tête avec 27 sièges. Le DUP avec 25.
Le DUP, c'est le parti loyaliste attaché à la couronne.
Très, très conservateur. Et avec 25 sièges, et quand même une percée de The Alliance Party, qui est quand même un parti qui regroupe sur les deux communautés. Donc, évidemment, le Sinn Féin veut cette réunification et il l'a toujours voulu.
Mais ça veut dire que l'appartenance à une religion ne signifie pas... On peut être catholique sans vouloir être attaché à la République irlandaise.
Oui, bien sûr. Et on peut être protestant et se sentir... Mais on l'a vu dans le recensement. C'est-à-dire que la majeure partie, mais ça on le voit depuis des années, une grande partie des gens se sentent nord-irlandais.
Alors, c'est vrai que les chiffres du recensement montrent aussi que le sentiment d'appartenance à la Grande-Bretagne est en baisse et il décroît plus rapidement que celui d'appartenance à l'Irlande, qui est lui en hausse. Mais c'est vrai que le sentiment qui monte le plus, c'est l'appartenance à l'Irlande du Nord. Qu'est-ce que ça signifie ?
Mais écoutez, le problème, c'est que l'île d'Irlande est séparée depuis 100 ans et les gens ont quand même vécu quand même séparément avec des systèmes différents. Donc en Irlande du Nord, évidemment, tout s'est aggravé avec le conflit. Donc ça a radicalisé un peu les points de vue. Et je pense que l'unification que nous, on voit de l'extérieur comme normale, c'est pas si évident, et je pense qu'il faut du temps avant. Alors évidemment, Sinn Féin pousse pour une réunification, et elle l'avait dit dans son programme électoral.
Michelle O'Neill, qui est la première ministre. Et la vice-présidente de Sinn Féin.
Oui, voilà, c'est ça. Avait bien dit dans son programme qu'ils organiseraient des forums ou des citizens assemblies, des assemblées de citoyens pour pouvoir parler de la réunification. Et je voulais quand même, parce que ça m'est revenu, il y a eu quand même une chose, qui, enfin un organisme des réunions qui ont eu lieu dans les années 80-90, un peu similaire à celle-là, sauf qu'il n'y avait que les partis politiques qui y participaient, c'était le Forum pour l'Irlande. Et donc il y a eu déjà des débats sur justement l'avenir constitutionnel. Et le forum sur l'Irlande a débouché après sur l'accord du Vendredi Saint.
Alors, quand même, ce changement d'avoir les catholiques qui sont maintenant plus nombreux que les protestants, sur le plan symbolique, c'est important. Comment les unionistes, donc ceux qui sont fermement rattachés à la couronne d'Angleterre, ont accueilli ce résultat? Parce que, est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit aussi rapide, cette domination démographique des catholiques?
Je pense qu'ils le savaient avant. Hein. Comme je vous ai dit, c'est tous les 10 ans, le recensement. On avait des chiffres déjà, on le disait déjà. Donc, mais ça, tout ça renforce la peur des unionistes les plus durs. Hein. C'est pas tous les unionistes, hein, c'est les unionistes les plus durs du DUP, etc.
Alors je voudrais qu'on écoute justement Margaret, une Nord-Irlandaise fermement attachée à la couronne. Elle a été interrogée dans le cadre d'un reportage diffusé par Arte en mai dernier, donc avant les résultats de ce recensement. On l'écoute.
Ici, c'est l'Irlande du Nord. C'est le Royaume-Uni, pas l'Irlande. On est deux pays complètement séparés. Chez nous, c'est le drapeau britannique qui flotte, celui qui est rouge, blanc et bleu. Ici, on peint nos dalles en rouge, blanc et bleu. On hisse l'Union Jack et on célèbre l'Irlande du Nord. On ne veut pas du drapeau tricolore irlandais, parce que ce n'est pas celui de notre pays. Quand vous vous baladez ici, vous ne voyez pas non plus de drapeau français, parce que c'est l'Irlande du Nord.
Alors, Margaret, dans le documentaire fait par Arte, participe ensuite à une marche unioniste, ces parades orangistes qui, autrefois, donnaient lieu à des affrontements assez sévères. Est-ce qu'elle rassemble toujours autant de monde qu'avant ou est-ce que ça décline?
Alors, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais il y a toujours, si vous voulez, c'est toujours une période assez tendue, hein, puisque c'est donc c'est un peu plus familial maintenant, mais c'est toujours aussi identitaire.
Et est-ce que ces tensions identitaires, vous parliez de la peur des unionistes face à ce renversement de tendance démographique et aussi politique, est-ce que cette peur peut être susceptible d'accroître les tensions entre les deux communautés, réveiller ces tensions identitaires?
Alors, elles ont déjà été bien réveillées avec le Brexit hein, depuis 2016, puisque après l'accord du Vendredi Saint, pendant une dizaine d'années, il y a énormément d'argent qui a été donné par l'Europe pour plein de projets qui essaient de réconcilier les communautés, entre guillemets. Hein, c'est un mot bien qui n'est pas très bien défini, la réconciliation. Et il y avait une espèce de modus vivendi, il y avait des choses, on sentait qu'il y avait quand même des avancées, même si les institutions fonctionnaient bon an, mal an, il y avait quand même, on voyait quand même un progrès, hein, même quand on allait à Belfast, par exemple, à partir des années 98, etc., la ville a complètement changé, on dirait une ville normale maintenant, alors qu'avant...
Avant, il y avait des murs.
Avant, il y avait des murs, le centre de Belfast était fermé la nuit, les bus, quand ils passaient, donc on devait passer, quelqu'un passait dans le bus pour voir s'il y avait des bombes sous les sièges. Donc c'était ça, hein, l'ambiance. Donc ça a radicalement changé. Et donc, si vous voulez...
Et avec le Brexit, ça a ravivé les tensions.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, quand le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne, je pense qu'ils n'ont pas voulu voir à quel point ça pouvait... si vous voulez, endommager les accords du Vendredi Saint. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le protocole a été une solution qui a été trouvée.
Le protocole nord-irlandais. Ouais. Donc il faut rappeler ce qu'il prévoit, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une frontière terrestre au milieu de l'île irlandaise pour séparer le Royaume-Uni, c'est-à-dire la partie, les 6 comtés d'Ulster de la République d'Irlande, ils ont décidé d'effectuer les contrôles douaniers et de mettre cette frontière entre le Royaume-Uni et les 6 comtés d'Ulster, en mer. Oui. Et ça n'a pas plu du tout aux unionistes, évidemment.
Non, parce que pour eux, ça veut dire un pas de plus vers la réunification avec l'Irlande, dans leur tête. Hein. Et le protocole, qu'est-ce que c'est? L'Irlande du Nord est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il fait partie quand même du marché enfin britannique, mais en même temps, il suit quelques règles de l'Union européenne, justement pour ne pas qu'il y ait de frontières physiques, hein, sans rentrer dans tout ce qui est technique, parce qu'il y a plein de choses. Et donc, évidemment, c'est la solution qui a été trouvée pour garder le principe de l'accord du Vendredi Saint. Alors, il y a deux enquêtes qui ont été menées l'année dernière, une par Queen's University, la grande université de Belfast, et une autre, je ne me rappelle plus, et donc qui disait en fait que les gens s'étaient habitués au protocole et que ça posait pas autant de problèmes. Les problèmes techniques ont été quand même résolus, parce qu'évidemment, au début, les entreprises devaient s'adapter aux contrôles, etc. Mais ça s'est un peu atténué, et on remarque depuis l'année dernière que le commerce entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande a augmenté aux dépens du commerce entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.
Et pourtant, le DUP, donc ce parti très conservateur et loyaliste, bloque les institutions à Belfast à cause de ce protocole. Et le Sinn Féin, qui a remporté les élections, ne peut pas gouverner sans le DUP. Donc là, on est dans une situation de blocage politique pour un sujet dont vous dites qu'il ne préoccupe pas réellement les Nord-Irlandais, c'est ça ?
Non. Au niveau... Alors, c'est toujours très dur de dire ça, parce que, vous voyez, la population, elle est quand même prise par tous les problèmes économiques actuels, hein, et puis on sort de la pandémie, etc. Et ils aimeraient avoir des institutions qui s'occupent de leur quotidien, un peu comme en France, hein, c'est-à-dire ils sont... Et évidemment, au niveau des partis politiques, si vous voulez, les partis politiques vont exploiter chez certains cette peur, hein, un peu, vous voyez, de la réunification.
Et cette paralysie politique, si elle dure, elle contraindra à de nouvelles élections législatives. Et est-ce que ce parti loyaliste qui bloque les institutions ne risque pas de payer son attitude et de perdre encore plus de voix ?
Alors ça, c'est la bonne question, parce que le problème, c'est que la fois dernière, en juin, tout le monde s'attendait à ce que le DUP ne fasse pas un bon score, puisqu'il était très divisé. On l'avait vu avec la démission d'Arlene Foster et puis toutes les tensions qu'il y avait au sein du parti. Et en fait, il arrive quand même deuxième.
Alors, il faut s'attarder aussi sur Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, qui a son mot à dire sur cette question nord-irlandaise. Lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, elle a déposé un projet de loi pour passer unilatéralement outre ce protocole nord-irlandais. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir ? Maintenant, elle est première ministre, donc elle doit négocier avec l'Union européenne. On en est où de ces négociations ?
Là, elle vient de prendre son poste, je ne sais pas trop, mais c'est vrai, elle voulait déclencher l'article 16, c'est ça ? Donc, en fait, c'est-à-dire une clause d'exception, en fait, pour le protocole. Bon, là, je ne peux pas trop vous dire... Ce qui est intéressant quand même, je ne suis pas monarchiste, hein, mais vous voyez, le roi Charles, sa première visite, c'est pour l'Irlande du Nord, et il y a une espèce de rassemblement autour de lui, alors que les politiques derrière, Boris Johnson comme Liz Truss, ont plutôt attisé un peu les tensions, parce que le protocole nord-irlandais, si elle n'est avec l'UE, je ne sais pas quelle est sa latitude, si vous voulez, de donner. Boris Johnson n'y est pas arrivé. Donc, c'est très dur, hein, vous voyez. Il y a quand même 27 personnes.
Alors, je suis contente que vous ayez parlé du roi Charles III, parce que, d'abord, je voulais dire que Michelle O'Neill, donc la première ministre d'Irlande du Nord, s'est rendue aux funérailles de la reine Elisabeth II. Ça semblait inimaginable, un tel geste, il y a quelques années. Il y a un sens politique à donner à sa présence aux funérailles de la reine, pour encore une fois une représentante d'un parti qui cherche à tout prix à se détacher de la couronne.
Alors je pense, parce que si vous voulez, la reine était venue en 2011 à Dublin. À l'époque, elle avait fait un discours que les auditeurs peuvent regarder sur YouTube. Ses premiers mots sont en gaélique, en irlandais.
Et elle était habillée tout en vert.
Voilà. Et la présidente de l'époque, Mary McAleese, fait un gros « waouh » parce qu'elle ne s'attendait pas à ça du tout. Et donc, l'année d'après, la reine a été en Irlande du Nord et elle a serré la main de Martin McGuinness, qui était vice-premier ministre à l'époque d'Irlande du Nord et qui était quand même membre de l'IRA. Et on sait que l'IRA était a assassiné un des cousins de la reine.
Lord Mountbatten.
Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est quand même... Elle a fait, au niveau symbolique, hein, y a pas de pouvoir, mais au niveau symbolique, elle a fait beaucoup plus. Et à l'époque, vous regarderez dans la presse, Martin McGuinness, en fait, se sentait proche d'elle. Hein. Il l'a dit à un moment donné. Et donc, je pense que Michelle O'Neill, elle, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas politiquement, ce qu'elle veut montrer, c'est que aux unionistes, n'ayez pas peur de nous. On n'est pas anti-britannique, etc. On essaie de faire de la politique et on va essayer de faire une réunification sans vous faire peur et en vous incluant.
Alors, le roi Charles III, lui, il a des dispositions particulières à ce sujet ? Il s'est déjà exprimé sur la question ?
Je ne crois pas, mais il a dit dans son discours, quand sa mère est morte, il a dit « je continuerai l'œuvre de ma mère ». Donc je pense qu'il était dans la ligne directe de ce qu'elle a fait en 2011 et 2012.
Est-ce que la population de Grande-Bretagne, les Anglais, pour parler plus directement, se sentent concernés par l'Irlande du Nord ? Est-ce qu'ils sont attachés à ce territoire ?
Non, je ne pense pas. Honnêtement, à part peut-être la diaspora irlandaise, mais bon, si je veux faire une comparaison hâtive, c'est un peu comme quand les Français parlent de la Corse. C'est un peu hâtif ce que je dis. Hein. L'Irlande du Nord, même les partis, enfin les gouvernements au pouvoir pendant de 21 à 72, ont quand même, même s'ils ont essayé d'arranger les choses ou pas, ils étaient quand même assez distants. Et l'Irlande du Nord, pour la majorité des Anglais, je pense, c'est quand même lié au conflit. Et ça fait peur, c'est normal.
Et ça leur coûte cher.
Et ça leur coûte cher, mais ça, je ne sais pas s'ils sont conscients de ça, mais voilà.
Alors, si on parle de réunification, il faut expliquer un peu comment ça pourrait se passer. Il faut un référendum, c'est ça ?
Oui, un référendum qui est déclenché par le ministre de l'Irlande du Nord.
Donc, à l'initiative de Londres.
De Londres, voilà. Ça, c'est ce qui est dans l'accord du vendredi saint. Et il y aurait aussi un référendum en République. Mais il doit être... Et le ministre de l'Irlande du Nord, avant de lancer ce référendum, doit être à peu près sûr du résultat, qu'il y ait vraiment une envie, si vous voulez, de réunification.
Et comment il n'y a aucun... C'est assez flou.
C'est assez flou. C'est quand il a le sentiment, je ne sais plus le terme, mais c'est il a le sentiment que...
Qu'une majorité de Nord-Irlandais souhaite être attachée à la République. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire traîner pendant autant d'années qu'ils le souhaitent.
Bien sûr.
Est-ce que les Irlandais de la République d'Irlande, de leur côté, souhaitent vraiment cette réunification ?
Alors, on a vu dans les derniers sondages, je crois avant l'été, que oui, ils étaient en faveur, une majorité était en faveur, mais ils n'étaient pas prêts à payer toutes les subventions qui étaient données par la Grande-Bretagne et payer pour le système de santé, le NHS, qui est en vigueur en Irlande du Nord. Donc, si vous voulez, bon, un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Hein, on les a vus sur la réunification. Tantôt, il y avait une majorité pour, tantôt contre. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle... C'est ce que je vous disais, les gens, à part quand il y a de la famille en Irlande du Nord, il y a vraiment des liens. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient ça avec beaucoup de distance aussi. Donc,
ce désir d'unité, c'est surtout symbolique, fantasmé ? C'est ça que vous voulez dire ?
Je ne sais pas si... Il trouve un écho chez certaines personnes, même en République. Hein. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Mais quand on parle aux gens, après, oui. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord, c'était là où il y avait le conflit, etc. C'est quand même une histoire assez triste. Hein. Bon, voilà, de 21 à 72, c'était dur aussi pour la minorité catholique. Donc, c'est quand même une histoire un peu mouvementée. Je ne sais pas. Voilà. Les désirs de réunification chez les partis politiques, oui, peut-être, hein, mais dans la population, c'est pas
gagné.
Je ne sais pas.
Fabrice Mourlon, merci. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à la Sorbonne Nouvelle.